de noir, suite et fin. Et donc là, nous étions, j'ai oublié de dire, mais ce n'avait pas grande importance pour parler du livre Trash Circus de Joséphine Cardona, mais Joséphine Cardona nous parlait de Suisse, et là, on va aller de l'autre côté, et on part en Belgique, Jacques.
Voilà, donc pour évoquer un roman de Nadine Monfils, qui s'appelle « La petite fêlée aux allumettes ». Ce roman, comme les derniers romans de Nadine Monfils, est paru chez Bellefond. Mais avant de commencer à parler de ce livre, nous avons la chance d'avoir un extrait d'une interview d'un des personnages du roman, c'est pas si souvent. Un Belge aussi, car il faut dire que Nadine Monfils est belge, et donc elle met des héros belges dans ses romans.
C'est ce que Dalle doit connaître le mieux.
Voilà, ce héros, c'est évidemment l'inénarrable Jean-Claude Van Damme. Alors nous allons l'écouter, attention, c'est très court mais dense.
Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent.
Effectivement, voilà, donc vous avez entendu Jean-Claude Van Damme. Et ce Jean-Claude Van Damme va accompagner le lecteur pendant tout le roman.
Il n'accompagne pas que le lecteur, d'ailleurs.
Non, en fait, c'est pas vraiment le héros, c'est le héros du personnage principal, à savoir la super mamie de Nadine Monfils, Mémé Cornemuse. Jean-Claude Van Damme, mais elle l'appelle Jean-Claude, il lui sert en quelque sorte d'interlocuteur virtuel. Il lui répond par ces fameuses petites phrases dont on vient d'entendre une, qui ont fait sa gloire autant que sa capacité à étendre 14 mecs en deux coups de pied dans les films.
Voilà, donc et toutes les citations que dont Nadine Monfils émaille le récit sont totalement réelles.
Voilà, et
c'est impressionnant.
Et du niveau de celle-là. Alors Mémé Cornemuse était déjà apparu dans le précédent polar qui s'appelait Vacances d'un serial killer dont on avait parlé dans cette émission. Et on la retrouve cette Mémé Cornemuse dans la ville de Pandore. Ville bien réelle et pourtant totalement imaginaire.
Et c'est une ville qui était dans les précédents romans, avant les Vacances d'un serial killer, dont Nadine Monfils avait fait le cadre des romans précédents, Coco Givré et Tequila Frappé.
Tout dans ce roman se passe dans une réalité, une autre réalité en fait. Mais on finit par y rentrer dedans sans même s'en rendre compte parfois. Alors bon, c'est un polar, il y a quand même des meurtres, plutôt horribles d'ailleurs, où les filles sont assassinées selon un rituel qui ressemble à un conte de fées. Le chaperon rouge, etc. Il y a aussi Nake, peut-être.
Je sais pas comment. Oui, je crois que oui.
Nake.
Qui est... bah, l'accent belge, c'est dur pour nous quand même.
Voilà.
Hein.
Nake, c'est la fêlée aux allumettes du titre, donc en fait.
Oui, je me souviens même plus si on a dit le titre,
la petite fêlée aux allumettes.
Ah oui, oui.
Donc cette Nake, elle a trouvé une boîte d'allumettes sur le corps de sa grand-mère récemment décédée. Et quand elle allume une de ces allumettes, elle a d'horribles visions qui s'avéreront être en fait des prémonitions de futurs crimes.
Avec ces fameuses scènes de crimes et de contes.
Voilà. Alors, il y a des meurtres, donc forcément, il y a des flics. Donc, il y a l'inspecteur Cooper, qui a des petites manies un peu bizarres, que vous découvrirez. Et il y a son adjoint, le jeune Michou. Alors lui, il exerce le double emploi, comme aux États-Unis, vous savez, on a deux travails. Alors lui, il est flic le jour, et puis il est travelot la nuit dans un bar interlope. Donc ce qui est pas mal, parce que ça permet...
Je sais pas si t'as remarqué, mais les travelots le sont toujours dans un bar interlope.
Ah bah généralement, Et alors, en fait, c'est assez pratique, parce que outre le fait d'assouvir ses instincts, de gagner un peu d'argent... ça lui permet d'obtenir pas mal d'informations parce qu'il y a souvent...
quelques informateurs dans les bars interlopes, c'est connu.
Bon, alors, on a parlé comme ça. C'est pas si facile que ça de raconter un livre de Nadine Monfils. Son univers est totalement barré, un univers quasiment surréaliste, qui n'est pas sans rappeler celui de Magritte, qui est belge aussi, je vous le rappelle. Et en fait, ça a beau être barré, l'enquête se tient parfaitement, si on accepte certaines...
L'histoire aussi.
Et les personnages aussi, ils ont quelques petites particularités. Mais sinon, finalement, c'est des personnages comme vous et moi, si on vivait dans un monde qui...
Mais ils habitent Pandore, voilà. C'est ça le différent.
C'est un monde qui est régi par les lois de la physique de Pandore, ou de Nadine Monfils, un peu des deux, quoi. Bien sûr, j'ai oublié de le dire, et je le dis donc maintenant, c'est très drôle. On rit pas à gorge déployée, mais en fait, on se marre tout le temps.
Il faut dire que rien que le personnage de Mémé Cornemuse qui nous avait fait écrouler de rire dans les vacances d'un serial killer, rien que déjà ce morceau-là, c'est...
Voilà, je rappelle que Mémé
Cornemuse,
a des goûts pour certaines pratiques sexuelles qui ne sont pas sans rappeler un des plus célèbres tableaux de Magritte, justement, dont on parlait.
Et d'ailleurs, ce qui me fait penser que le titre... peut se voir sous plusieurs...
La petite fellée, c'est pour ça que je l'ai prononcée comme ça, la petite fellée aux allumettes.
C'est pas forcément un conte d'Andersen.
Voilà, je vous laisse...
Non, on va s'arrêter là peut-être.
On va s'arrêter là, oui, parce que quand même... pour vous laisser
on est à une heure de grande écoute.
Voilà, puis pour vous laisser le plaisir de découvrir tout ça dans le livre donc, de Nadine Monfils, La petite fellée aux allumettes, qui est paru, donc, je rappelle, aux éditions Belfond.
Alors moi, je voudrais rajouter un petit peu, une petite atmosphère dans ce livre, parce que dans les vacances d'un serial killer, on avait moins cette tendance qu'a Nadine Monfils, il faut rappeler qu'elle a commencé par écrire des contes, Nadine Monfils, à être dans un imaginaire, dans un lyrisme, je dirais presque dans une poésie narrative. Et là, on retrouve complètement cet univers de contes et vraiment dans le déjanté, un lyrisme absolument fantastique. Bref, vous l'aurez compris, on est tous les deux enthousiastes. Donc c'est chez Belfond. En plus, la couverture, elle en jette.
Donc un petit peu de musique, du lyrisme aussi d'ailleurs, d'une certaine façon. Un morceau de Hubert Félix Thiéfaine, que nous, on écoute depuis quand même près de 30 ans. Et que
Non, attends, c'est pas si longtemps.
Si, 82. Hein. Et ben, on n'est pas mécontent qu'il soit récompensé, même si cet album est plutôt, j'allais dire, testamentaire, disons crépusculaire quand même.
Oui, on préférera dire ça, hein, parce voilà. qu'on espère le voir encore longtemps en concert.
Mais le morceau ne l'est pas du tout, et c'est bien un titre de Hubert Félix Thiéfaine, La vamp orchidoclaste.
J'ai rencontré des meufs que j'ai su éviter, mais je crois que la chance n'est pas de ton côté. Si les hommes viennent de Mars et les femmes de Pigalle, t'as trouvé la plus dingue des espèces infernales. Ta vamp orchidoclaste, ta cendrillon tarée vient d'un autre univers. Vu les traces de trous noirs sur sa chaussure de verre, elle court dans tes couloirs, elle rue dans tes converses, et t'entraîne en hurlant dans des voix qui s'inversent. Ta vamp orchidoclaste. C'est une brise burne, une casse burette, un cauchemar diurne, une trouble fête, une tornade en croco qui se chauffe au bazo, en vibration néfaste. Ta vamp orchidoclaste. Tu n'es pas fatigué d'offrir tes vieux démons à cette fille des 60s qui traîne avec ton nom. Plus vive qu'un mocassin dans la boue du bayou, elle prend ton énergie sur un rythme vaudou. Ta vamp orchidoclaste. Elle te couvre les yeux d'une peau de panthère noire, qui t'empêche de penser et qui t'empêche de voir. La vérité en face, c'est la réalité de ce que tu seras quand elle t'aura vidé. Ta vamp orchidoclaste. C'est une brise burne, une casse burette, un cauchemar d'urne, une trouble fête, une tornade en croco qui se chauffe au bazo, en vibration néfaste. Ta vamp orchidoclaste. Si elle perd sous la pluie ses clopes et sa barrette, ta gorgone se transforme en furie sous enfer. Et j'en deviens baba et des 40 voleurs sous ses yeux de sorcière et de ventilateur. Ta vamp orchidoclaste. Toujours à critiquer, toujours à raconter quelques sordides horreurs sur tes amis passés. Elle t'entraîne dans un gouffre aux multiples rancœurs, d'où je préfère m'enfuir en te laissant l'honneur. L'honneur de lui chanter. T'es une brise burne, une casse burette, un cauchemar d'urne, une trouble fête, une tornade en croco qui se chauffe au bazo, aux vibrations néfastes. T'es une brise burne, une casse burette, un cauchemar d'urne, une trouble fête, une tornade en croco qui se chauffe au bazo, aux vibrations néfastes. T'as vent pour kilo classe.
Voilà, je dirais que c'est une spéciale dédicace pour Nadine, mon fils. La vente Orchidoclast, la casse burne et la casse burette, c'est, mmh. ça va très bien au personnage de Nadine, mon fils. Donc, dans la petite fée aux allumettes. Ah oh, oui, tout à fait. Voilà. Et moi, je vais vous parler d'un premier roman qui m'a plutôt impressionné, un joli coup de cœur. Donc, je vais essayer de n'écorcher ni le titre, ni le nom de l'auteur. C'est paru chez Rivage Noir. Je laisse passer le temps parce que j'ai peur d'y aller avec les noms. Donc, ça s'appelle Maki Adam. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Et l'auteur, donc un très jeune auteur, s'appelle Jilali Hamham. Désolé si un jour il m'écoute.
Hamham.
Voilà, j'ai mal non, prononcé.
Hamham, je pense.
Voilà. Donc, le personnage principal s'appelle Adam. En gros, pur produit de la cité et un peu shooté à la haine. Comme il le dit, haine de naissance, haine de croissance, haine comme essence de mon existence. On dirait les paroles d'un rap. Et il y a des passages qui sont pas sans rappeler la culture rap. Il va donc devenir, pour s'en sortir, pour sortir de ces cités, il va donc devenir machiavélique, d'où le titre Maki Adam. Hein. Il veut s'en sortir au plus vite et devenir riche. Quand on sort d'où il sort, foin d'études, foin de diplôme, arnaque et trafic en tout genre sont la plus rapide et la meilleure façon d'engranger, de quoi se tirer des HLM et de surtout de ne pas finir comme ses parents, alors que ses parents, dans une scène, on voit très bien qu'ils ont tout fait pour essayer de l'en sortir et de faire qu'il fasse des études et de gagner sa vie d'une autre manière. Adam, pour parvenir à ses fins, va donc se transformer en Yacine. Beau parleur, jeune étudiant, propre sur lui. Et pour arriver à faire son arnaque, il cherche une jeune femme. Il va tout de suite tomber dessus et il va donc séduire Marianne. On va dire que c'est une petite bourge des quartiers chics. En fait, attention, c'est pas pour lui détourner son héritage, pour faire un mariage qui va lui apporter du fric. Non, non. C'est en gros pour avoir une mule et surtout son véhicule. Il va tenter de la convaincre de l'emmener au Maroc et de ramener son véhicule, donc avec au volant une petite blanche bien propre sur elle, et dans la voiture plein de drogue un petit peu de partout. Et pour ça, il va utiliser de la tchatch. Et ça, Adam, il en a pour entraîner Marianne, qui va évidemment tomber folle amoureuse, au point de tout supporter d'ailleurs, une fois qu'ils vont être au Maroc, aveuglée complètement par, allez, on pourrait appeler ça les flèches de Cupidon. Est-ce que Adam, en fait, un des propos du récit, c'est est-ce que Adam va, parce que peut-être il a un nom prédestiné, va atteindre une rédemption, un petit peu peut-être grâce à l'amour, ou va-t-il, je cite, « Je basculais du côté sombre de l'humanité, là où les consciences brûlent, sous les flammes d'un feu invisible, l'immoralité. » Il va toujours être balancé dans la seconde partie du récit entre la rédemption ou la violence totale et partir totalement du mauvais côté de la force. Ce qui va étonner, mais en même temps ravir complètement le lecteur de ce roman, c'est la richesse des registres de langage employés. Pour les besoins de l'arnaque de son héros, Hilali Hamam passe d'un langage soutenu, digne, osons carrément du siècle des Lumières, au langage des cités le plus cru et des plus véridiques d'ailleurs. Dans une deuxième partie, quand ils arrivent au Maroc, là on va avoir un florilège de plein de langages différents. Ça va être l'argot des dealers, du marocain, de l'espagnol, une logorée de mots bigarrés et multicolores pour une histoire qui va sombrer, elle, vers le noir le plus profond. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est donc un premier roman pour ce jeune romancier et on sent que des tas et des tas de scènes ont été vécues, comme celle par exemple où Adam, au pied de la cité, peut-être d'ailleurs la scène la plus honnête des quelques mois que l'on passe avec ce personnage, d'abord honnête vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres, il va opposer ses idées avec celles de son copain d'enfance, Mousse. Mousse, lui, il est resté du bon côté. Il pense qu'il peut s'en sortir. Enfin, vous allez le voir dans l'extrait que je vais vous lire. Il pense malgré tout. Il pense qu'il peut avoir un travail honnête. Et pourtant, il végète à Monsieur Pôle emploi. Et puis, évidemment, en face, Adam, qui pense s'en sortir à n'importe quel prix, et surtout grâce à des arnaques et grâce à des trafics. Alors, je lis deux petits extraits de ce face-à-face. Qu'est-ce que tu veux faire, Mousse? Le chômage et la désolation font le lit de la débrouille. D'un côté, il a pas tort, le petit, il s'y prend mal, c'est tout. Et puis, qu'est-ce que tu peux leur opposer à cela? Ils ont vu leurs parents s'esquinter la santé sur les chantiers, leurs frères et sœurs surdiplômés terminés au McDo. Ils vivent dans des cages à poules et tu voudrais qu'ils restent là à se laisser noyer? La cité tue les rêves, Mousse. Elle tue les rêves, cette putain de cité. Et de l'autre côté, on va avoir l'autre vision, non pas de Mousse, mais toujours de Adam. C'est niqué, mon frère, c'est niqué depuis le préau. Tu te souviens de l'école primaire et du CM2? Tu ne t'étais jamais demandé pourquoi les Arabes, les Noirs et les Manouches étaient tous regroupés dans notre classe, alors que l'autre CM2 se composait que de Baptous. Tu te rappelles pas de toutes les sorties qu'ils ont pu faire? Et nous, dans tout ça, on comptait que pour du beurre. On n'a jamais posé nos fesses ailleurs que sur ces foutues chaises de classe. Rappelle-toi, on était même mélangés avec des CM1. Cet enfoiré de directeur s'appuyait sur les bulletins de paye des parents plutôt que sur nos bulletins de notes pour composer les classes. Ça sent vraiment le vécu. Donc, comme vous voyez, d'une façon comme d'une autre, là d'où viennent les personnages principaux de ce jeune écrivain, il y a, comme on le disait à une époque, nos futures. Si on est totalement objectif, on pourrait peut-être reprocher à ce jeune écrivain quelques longueurs, quelques scènes, comme celle par exemple où il va passer la frontière marocaine, où il en fait un peu trop, où les rebondissements s'accumulent un peu en longueur, quoi. Mais il y a vraiment une très très belle promesse d'écriture et surtout un univers qui est par définition celui du roman noir. Un univers qui décrit les laissés pour compte de la société, les oubliés du système, que dis-je, même pas oubliés du système, mais effacés du système. Et si quelque part, des romans comme celui-ci peuvent leur rendre une existence, une dignité, d'abord on va espérer que beaucoup liront Macchiadan, et d'autre part, que Jilali Amham a une longue carrière dans le roman noir et la littérature. On lui souhaite bonne chance, on lui souhaite donc beaucoup, beaucoup de lecteurs pour ce premier roman et qu'il ait la possibilité de nous régaler avec beaucoup de suivants. On va finir cette émission peut-être en rappelant que dans une première partie, on a reçu Joséphine Cardona pour nous parler de son dernier roman paru chez Paris Gramme qui s'appelle Trash Circus. Jacques, tu as pu nous parler de, je te laisse te lire le titre.
La petite fêlée aux allumettes de Nadine Monfils chez Bellefond.
N'insiste pas trop. Et puis, je me suis trompée parce que on a cru.
On voulait faire un sommaire enfin, et ça sera un sommaire qui le sera vraiment sommaire, car on n'en parlera pas tout de suite.
Mais on va quand même expliquer le jeu de mots, c'est tout simplement parce que le prochain auteur dont on voulait parler, son nom est
Mehmet Murat Sommer, et c'est un auteur turc dont on reparlera sûrement.
Certainement, pour soyez à l'écoute le 21 mars. À toutes, bye bye.